franceinter.fr.
Voilà. Le
jardin, c'est Zazen, c'est Zen,
mais il y a un style, le style de jardin Zen, est cher au cœur d'Éric Borja, qui est le grand maître de ce genre de jardin. Mais effectivement, c'est un style de jardin. Et les jardiniers ne sont pas Zen en général, eux, ils sont cool.
C'est vrai, c'est pas tout à fait la même chose. Vous sentiriez plutôt du côté de la coolitude que de la zénitude.
Oui.
Très bien. Je suis pas un imbécile, puisque je suis douanier.
Alors c'est signé bien sûr Fernand Reynaud et cela date de 1972. Mais rassurez-vous, mon propos n'est pas de vous parler ce matin des contrôles aux frontières, quoique, mais des herbiers conservés par le Muséum d'Histoire Naturelle.
Et ça remonte à quand les premiers herbiers en fait? Il y en a depuis quand?
L'herbier le plus ancien, je vous rappelle que l'herbier c'est l'art d'aplatir, c'est l'art de collectionner ces feuilles prélevées dans la nature pour ensuite pouvoir étudier les plantes. Eh bien l'herbier le plus ancien fut réalisé en 1523 par Luca Guini, un botaniste italien. Malheureusement, il n'existe plus, mais nous avons tout de même une description assez précise. On sait par exemple que les planches de papier étaient reliées et divisées en volumes, un peu comme des livres.
Alors il y a des herbiers absolument fabuleux, c'est vrai que c'est magnifique hein,
de pouvoir comme celui de ces alpins, bien sûr.
Ouais. Ces alpins, c'est quand?
Qu'il était lui aussi italien et qui a confectionné en 1553 un herbier si magnifique que Napoléon le confisque quand il va en Italie, bien sûr, et le rapporte à Paris. Fort heureusement, il sera finalement restitué à Bologne en 1820.
Sauf qu'il n'y a pas que les Italiens quand même.
Non, les Français aussi s'y intéressent, comme Jean Giraud qui en 1558 confectionne un herbier qui est aujourd'hui le plus ancien conservé au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Vous vous rendez compte qu'il y a encore dans cette institution un herbier qui a été fait en 1558. Moi je suis fasciné. Dès le XVIIe siècle, la folie des herbiers s'empare de tous les botanistes, comme Sébastien Vaillant, qui est le médecin de Louis XIV, qui s'y consacre pendant plus de 30 ans, car je vous rappelle que les médecins avaient pour formation principale la botanique.
Et est-ce qu'il y a un corollaire entre herbier et médecine?
C'est-à-dire
que un herbier, ça peut aider.
Bien sûr. Quand Joseph de Jussieu, par exemple, visite le Pérou en 1735, il va quand même rester 30 ans dans ce pays, il collecte un maximum d'échantillons comme le quinquina, un arbre qui fournira la quinine, cette substance utilisée pour lutter contre le paludisme, une maladie qui, encore aujourd'hui, fait des millions de victimes tous les ans.
Absolument. Il y en a un qui s'est intéressé très près aux herbiers, c'est le père Rousseau.
Eh oui, le père Rousseau s'y intéresse tant qu'il ne se limite pas à collecter dans les montagnes les plantes. Il achète aussi des herbiers plus proches de nous. Théodore Monod continuait à presque 100 ans, c'est extraordinaire quand même, ce vieil homme qui continuait à observer la flore du désert de Mauritanie.
Et alors, au Muséum National d'Histoire Naturelle, vous en parliez tout à l'heure, il y a de très très vieux herbiers. Il n'y a pas très longtemps, il y en a un qui a été prêté par eux.
Oui, vieux de 200 ans. Le Muséum a répondu favorablement aux scientifiques de l'herbarium de Brisbane dans l'état du Queensland, c'est en Australie. Ceux-ci souhaitaient étudier la centaine de plantes, 108 pour être exact, séchées qui constituent cet herbier. Après avoir bien sûr réglé toutes les formalités nécessaires et obligatoires, l'herbier s'envole pour l'Australie en mars et les premières personnes à le réceptionner ne sont pas les scientifiques, mais les douaniers.
D'où je ne suis pas un imbécile, je suis douanier du début, sauf qu'il y a un problème.
Eh bien oui, selon le site du Guardian, il manque des documents de quarantaine et en conséquence, les 105 échantillons ont été détruits, ils ont été brûlés sans avertissement préalable.
C'est pas vrai.
Si, bien sûr.
Pour des questions de sécurité.
De biosécurité. Les scientifiques français et australiens, vous vous en doutez, sont consternés par cette perte irremplaçable.
Vous êtes sûr que c'est vrai, ça? Je suis pas un imbécile, je suis douanier.
Oui, alors avouez qu'à propos de ceux qui exercent en Italie, à propos de ne pas être imbécile, il est permis de se poser sérieusement la question. Mais je vous informe que quand j'ai appris l'information, j'ai été vérifier les sources. Le Figaro également en parle.
Toujours.
Donc c'est quand même préoccupant. Vous vous rendez compte que un herbier vieux de 200 ans, c'est 200 ans de botanique. Ça permet également d'étudier des plantes qui ont peut-être ou qui sont peut-être en passe de disparaître à tout jamais. C'est aussi, on y pense jamais, l'occasion de constater l'évolution d'un végétal. Les plantes s'adaptent à l'environnement. Certaines produisent des fleurs ou des feuilles plus grandes, plus petites. L'herbier, justement, c'est une photographie d'un végétal à une époque précise. Eh bien, c'est une perte donc irremplaçable.
Mais les Australiens sont un peu maniaques. Moi, je me suis rendu dans ce pays il y a très très longtemps et je me souviens que dans l'avion, à l'atterrissage, à Sydney, des douaniers sont rentrés dans l'avion et ont commencé à vaporiser pour éliminer, je ne sais pas, des microbes de ceux qui arrivaient d'Europe.
Ce qui est sûr, c'est que vous n'aviez pas d'herbier sous le coude.
Non.
Ça risque pas, hein, avec Pierre Veille. On vient de m'offrir un très bel hortensien en pot, pas à moi, mais à Marie-Pierre. quand puis-je le rempoter? Puis-je le remporter en pleine terre sous mon tuya? Et autre question qui concerne les buis, mais on en parlera après.
Alors, c'est assez amusant. Il y a une question qui revient souvent. On m'a offert un hortensia en pot. On m'a offert un pied de lavande, un pied de rosier. Et la question qui accompagne, c'est quand puis-je le rempoter? C'est une obsession sur le rempotage. Vous avez reçu un hortensia en pot.
Oui, non, mais pour le laisser en pot, alors.
Pour le moment, profitez-en. Regardez-le. Aimez-le mieux. Parlez-lui. Et ensuite, seulement, il sera peut-être question de le rempoter, à condition, bien sûr, que vous souhaitiez le garder en pot. Je rappelle que garder un hortensia en pot n'est pas chose facile. C'est une plante qui a besoin de beaucoup d'espace.
Vous vous étranglez.
Non, petit problème toujours
d'allergie.
D'air conditionné.
Oh, donc pas besoin de le rempoter.
Pas besoin de le rempoter. Et je vous rappelle que le rempotage, par contre, ne peut s'effectuer qu'après la floraison du végétal, jamais bien. Avant, jamais pendant. Donc,
autre question.
Inutile de rempoter cette hortensia. Mais admettons que l'an prochain, notre ami soit tenté de me reposer la question. Sachez que le mélange idéal pour rempoter un hortensia, c'est un mélange de terreau et de terre de bruyère.
Et ben voilà, c'est tout ce qu'elle vous demandait. Vous pouvez pas le dire dès le début. Alors, Marie-Pierre, une autre question à vous poser, figurez-vous, mais ça part le rempotage.
J'aurais aussi pu vous préciser, par exemple, que hortensia, oui. On en a déjà parlé, mais on y reviendra, parce que j'aime bien parler de l'origine des mots.
Oui.
Eh bien, le mot hortensia est celui aujourd'hui le plus sujet à caution. Beaucoup pensent que hortensia a été baptisé ainsi en l'honneur d'Hortense, qui était donc une famille de Napoléon, quoi. La reine Hortense, c'est arrivé. Alors qu'en fait, je pense que la plante a été découverte dans un jardin en Chine, qu'un jardin en latin se dit hortus, donc c'est peut-être tout simplement, voilà d'où vient le mot. Mais on y reviendra un jour ou l'autre.
On y reviendra.
Et que je peux parler longtemps de l'hortensia.
Autre question de Marie-Pierre. Oui. Mais ça, vous pouvez parler longtemps des plantes, ça on le sait à la marathon, parce que je vous taquine, mais je vous cesse savant. Autre question de Marie-Pierre, donc. Ces buis dépérissent, et ce n'est pas la pyrale. Alors que ça peut être d'autre?
Eh bien, il y a un problème cette année que j'ai moi-même constaté, qui est le gel tardif. Il y a eu une petite période de gel qui fait que quand vous avez des buis, on va dire que la surface extérieure du buis, parce que le buis, c'est un arbuste très compact, vous avez donc le feuillage en général, et je parle du feuillage que l'on voit. Donc la partie extérieure, elle est blanche, les feuilles sèches. Mais rassurez-vous, c'est simplement dû à ce gel tardif. Les jeunes petites feuilles, n'ont pas supporté, elles sèchent et elles vont tomber. Ce n'est pas grave, fort heureusement, ce n'est pas la pyrale, mais la pyrale est en train de revenir en région parisienne. J'ai constaté que les dégâts étaient considérables. Je vais même vous avouer, j'ai dans mon jardin à Versailles, dans mon jardin que j'ai la chance de pouvoir occuper à titre privatif, un buis magnifique, il n'y a plus une feuille. Et pourtant, je suis vigilant, et pourtant, les pyrales savent qui occupe le jardin.
Mais vous êtes sympa, parce qu'il n'y a pas de... rien ne délimite votre jardin, en fait. Finalement, vous êtes ouvert sur le reste du parc.
Et du monde.
C'est ça qui est merveilleux avec vous. Margot, est-il exact que les racines de peupliers peuvent commettre beaucoup de dégâts?
Oui, incontestablement. Les peupliers ont des racines traçantes. Et ce sont des racines qui vont là où elles ont envie d'aller. Quand vous plantez dans votre propriété des peupliers, si vous avez une voie d'accès, une construction, une maçonnerie, je vous encourage vivement à mettre des tôles métalliques installées verticalement dans la terre pour obliger les racines à plonger dans les entrailles de la terre. Mais je vous encourage surtout à ne pas planter de peupliers. Donc le peuplier, oui, peut être source de problèmes au niveau des maçonneries de par les racines. Toujours est-il que le peuplier d'Italie... Tiens, une question, je parlais de l'origine des noms. De quel pays est originaire le peuplier d'Italie?
Pas d'Italie, si vous posez la question.
Vous avez raison, d'Afghanistan. Simplement, les botanistes l'ont découvert en Italie, d'où le nom. Comme quoi, le nom, parfois, peut nous induire en erreur.
J'ai acheté des rosiers et j'ai lu qu'il fallait les praliner. De quoi s'agit-il, vous demande Jeanne.
Le pralinage est une intervention qui consiste à remplir un seau avec de l'eau, de mettre dans le seau de la terre et de mélanger l'ensemble. En un mot, de faire une mélasse, tout simplement. Puis ensuite, de faire tremper les racines dans ce mélange, afin que la boue enrobe l'intégralité des racines. Et ce, pour éviter que celle-ci ne dessèche. Une racine sèche ne peut pas absorber. Et paradoxalement, une plante qui ne peut pas absorber l'eau avec des racines défaillantes va mourir de soif. Donc le pralinage est une intervention courante pour le rosier.
Vous avez une idée de promenade à nous donner ou autre chose, je ne sais pas?
Non, je vais déjà saluer deux garçons extraordinaires, Arnaud Inco et Anthony Menu, qui sont les lauréats de Botany for Change, j'en parlais tout à l'heure, qui est un prix qui est décerné par la Fondation Chlorane, et ils ont réussi à créer un jardin qui a vraiment séduit le jury. Ce jardin est visible tout ce week-end et par la suite, bien sûr, dans le parc de la Villette. L'occasion également de vous y rendre aujourd'hui et demain. C'est la fête de la nature. Plein de choses ont été prévues.
Il paraît que vous revenez demain matin.
Oui.